Igloo, le Mac de l'Habitat.
Salut, c'est Igloo, le Mac de l'Habitat, avec Cédric Simonin.
Bonjour, Eric.
De cérémonie. Bonjour, bonsoir ou bonne nuit, parce qu'on la regarde quand on veut, cette émission, sur Internet, sur Facebook, Igloo en air, ou sur topmusique.fr, et même sur trianonresidence.fr,
aussi.
Puisque je vous rappelle que vous êtes le patron de Trianon Résidence. L'état des lieux, c'est un sujet important dans l'habitat. Comment éviter les litiges? Il y en a quelquefois et on a invité pour en parler un avocat. Olivier Pernet, bonjour.
Bonjour.
On arrive à notre sujet dans un instant après une info du monde de l'habitat, Cédric.
Oui, une info qui n'a aucun intérêt.
Bon,
alors je voulais vous la soumettre. C'est la vente de l'appartement le plus cher des États-Unis. Ça m'a fait sourire, je vais le partager avec nos auditeurs. Ouais. Donc c'est un quadruplex de plus de 2100 mètres carrés qui a été vendu pour la modique somme de 209 millions de dollars à New York. L'appartement en lisière de Central Park est désormais le plus cher du pays. Et l'heureux élu est Ken Griffin, très connu de la société d'investissement, le PDG de la société d'investissement alternatif Citadel, qui serait le nouveau propriétaire de l'appartement le plus cher des États-Unis. Pour la modique somme de 209 millions de dollars, je le répète, il posséderait désormais un quadruplex new-yorkais de plus de 2100 mètres carrés qui comprend 16 chambres, 17 salles de bain, une pour le chien, 5 balcons et une terrasse faisant face à Central Park. Ça fait juste 100 000 euros du mètre carré. Et nous, on parle de logements abordables. En fait, Eric, je pense que Ken Griffith s'est juste trompé sur l'annonce du Bon Coin. Je pense qu'il a acheté un hôtel sans s'en rendre compte.
Oui, puis il faut 15 jours pour faire le tour de l'appartement. On ne sait même pas qui y vit, finalement.
Non.
Et ce n'est pas l'homme le plus riche du monde qui a acheté le plus cher appartement du monde.
Non, mais bon, à ce niveau-là, ouais. On ne discute plus.
C'est vrai, ça n'avait aucun intérêt.
Aucun intérêt.
Aucun.
Voilà.
Bon, par contre, notre sujet du jour, il en a
l'intérêt.
L'état des lieux, comment éviter les litiges. Avec vous, Olivier Pernet, avocat depuis 15 ans. Vous avez créé votre cabinet à Célestat, puis ouvert des bureaux à Colmar et à Strasbourg. Vos clients sont des particuliers ou des professionnels pour le droit des affaires, droit immobilier et droit du travail, et l'indemnisation du dommage corporel. J'ai tout dit ?
Oui, tout à fait.
Bienvenue dans Igloo.
Merci beaucoup.
L'état des lieux, comment éviter les litiges, c'est votre sujet. Et on en parle avec Cédric Simonin.
Oui, c'est un sujet qui nous est souvent demandé par les auditeurs de plus en plus. Donc c'est vrai que c'est une grosse angoisse, le moment d'état des lieux. Alors pas trop d'entrées, mais beaucoup de sorties. Il y a des pièges à éviter, je voulais qu'on en parle avec Maître Pernet. Donc allez, on commence par l'état des lieux. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un état des lieux?
Alors l'état des lieux, c'est un constat. C'est la constatation de l'état de l'appartement. Comme vous l'avez dit, il y a un état des lieux d'entrée lorsque le locataire entre dans l'appartement, ce qu'on appelle la remise des clés, et un état des lieux de sortie à la remise. L'idée, c'est de pouvoir constater l'état quand je rentre et l'état quand je sors pour en tirer des conséquences.
Ok. Alors, s'il y a des conséquences, ça veut dire qu'il y a des responsabilités. Quelles sont les responsabilités de chacun?
Alors, les responsabilités de chacun, donc c'est la loi qui nous l'apprend, hein, on n'invente rien, évidemment. Le locataire a une obligation d'entretien courant. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de petites réparations qui doivent être faites et de maintenir globalement l'appartement en bon état au plus proche de ce que l'on a eu quand on a fait la remise des clés et l'état des lieux d'entrée, justement.
C'est obligatoire de faire un état des lieux?
Alors, c'est absolument pas obligatoire. Si vous me demandez mon avis, j'ai envie de dire que ça devrait l'être. Mm-hmm. Ça devrait l'être, ça permet de sécuriser les relations locataire-propriétaire, c'est avantageux pour tout le monde de savoir à quoi se référer. L'état des lieux d'entrée est presque le plus important, puisque si il n'y a pas eu d'état des lieux à l'entrée, le logement est réputé avoir été donné en bon état global.
Et ça arrive que des gens, des propriétaires, ne fassent pas d'état des lieux? Ça arrive vraiment?
Ça arrive assez régulièrement.
Ah oui.
Ça arrive assez régulièrement. Certains propriétaires le font simplement en n'y pensant pas, hein, parce qu'on signe le bail, on est dans un moment d'euphorie, le locataire rentre, il est pressé d'emménager, on n'a pas forcément le temps physiquement de venir sur place. Et d'autres propriétaires, un peu de moins bonne foi, n'en font pas sciemment pour que certains défauts ne soient pas répertoriés à l'entrée et qu'on puisse en faire le reproche à la sortie.
Il paraît que le New-Yorkais là, qui a acheté l'appartement, il n'a pas du tout fait d'état des lieux.
Non.
Lui,
mais
c'est
peut-être
pas
son avocat.
Peut-être.
Donc ça veut dire que toutes les dégradations seraient imputées alors au locataire lors de la sortie des lieux, hein?
Absolument.
D'accord. Donc maintenant, parlons de l'état des lieux en lui-même. Comment ça se remplit? Qu'est-ce qu'on y décrit?
Alors, l'état des lieux en lui-même, il y a deux façons de procéder. La façon habituelle, traditionnelle, c'est qu'il y a des formulaires pré-imprimés qui existent où on fait le tour du logement pièce par pièce, que ce soit le sol, le plafond, les murs, les équipements qui s'y trouvent, cuisine équipée, salle de bain, sanitaire, et les autres équipements globaux qui peuvent se trouver dans l'appartement. C'est vraiment le tour qui est fait. Et pièce par pièce, on fait du sol au plafond les remarques avec des cases à cocher de état neuf à très dégradé. Globalement, c'est comme ça qu'on fait un état des lieux entre propriétaire et locataire directement.
D'accord.
L'autre façon d'y procéder, c'est de faire ce qu'on appelle un constat d'huissier. C'est donc de recourir au service d'un huissier de justice. Alors, ce n'est pas un gros mot et ce n'est surtout pas grave d'appeler un huissier de justice, mais c'est simplement de recourir à un professionnel dont c'est le métier et dont les constatations feront foi. C'est-à-dire que ce que l'huissier va constater s'imposera au propriétaire comme au locataire, sous réserve que tout le monde a été présent ou invité à la réunion d'état des lieux.
Quand vous dites propriétaire, ça peut être une agence aussi hein, qui bien représente le
bien
propriétaire.
Entendu, oui. Bien entendu.
Oui, j'ai même vu des agences qui délèguent ça à des sociétés externes et qui font les états des lieux, dont j'ai eu l'occasion de voir, qui sont vraiment extrêmement précis en numérique. C'est vraiment très très bien fait.
En plus, c'est précis au début et puis on évite les problèmes. En fait.
Oui, parce que finalement, comment ça se passe lorsqu'il y a litige?
Alors, lorsqu'il y a litige, on commence par comparer les deux états des lieux d'entrée et de sortie et on fait le compte. Des modifications allant dans le mauvais sens, des dégradations. Quoi. Là-dessus, il appartient au propriétaire de faire chiffrer les travaux, d'en demander le paiement au locataire. On compense au moins une partie avec le dépôt de garantie, ce qu'on appelle familièrement la caution, qui est un mois de loyer pour les particuliers versé quand on signe le bail. Mais ça peut aller au-delà. Il peut y avoir des grosses remises en état et le locataire peut être condamné à payer.
Ça veut dire que là, le logement a été vraiment dégradé.
Absolument.
Et donc là, il y a problème parce que ça, il y a la caution qu'on récupère pas du coup, mais on peut être amené à payer beaucoup plus si on n'a pas entretenu le logement. Ça, c'est important de le savoir quand même.
Alors, si on l'a pas entretenu, mais visiblement, si on l'a dégradé,
plutôt,
ouais, tout à fait. Si on l'a dégradé.
Si on a, si on a fait des trous énormes dans les murs, par exemple.
Alors, on peut prendre quelques exemples, hein, parce que finalement, quelle est la notion de dégradation, quelle est la notion d'usure, ou d'utilisation normale d'un bien. Et puis après, les petits détails, j'ai mis des cadres sur mes murs, quid de ces petits trous, hein, sans faire un trou qui fait 10 cm de diamètre. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Une peinture un petit peu défraîchie, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc, si on peut avoir quelques petits cas comme ça qui sont les plus récurrents que vous avez à traiter.
Bien sûr. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une notion de vétusté. C'est-à-dire, c'est l'usure normale du fait du temps. Alors, il y a un certain nombre d'exemples de décisions de justice. Je vous en ai ramené l'une ou l'autre. Alors, on nous apprend, par exemple... c'est la cour d'appel de Colmar, pour ceux que ça intéresse, qui nous dit que la peinture, le papier peint, la moquette ont une durée de vie d'environ 7 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le locataire qui est resté plus de 7 ans, on ne peut théoriquement pas lui demander ou de repeindre, ou de changer les revêtements de sol, ou de changer la moquette. Quoi. Voilà. Par exemple, ça a une durée de 7 ans. Il y a d'autres cas où on apprend que c'est variable suivant la nature de ce qu'on a mis dedans. Du parquet, évidemment, ça a une durée de vie beaucoup plus longue. Des revêtements plastiques ont des durées de vie sensiblement plus courtes. Voilà. Mais en gros, la durée de 7 ans, c'est un exemple qui est pas mal à retenir, quoi.
Dernier point. Avant de conclure, souvent on l'a dit, hein, le locataire a peur que finalement le propriétaire ne cherche que la petite bête pour essayer de lui garder son dépôt de garantie. Certains, dont le sport favori, c'est de ne pas payer le ou les deux derniers mois de loyer en disant que finalement, comme ça au moins, le dépôt de garantie l'enverra la couleur. Légal ou pas légal?
Absolument illégal. Le dépôt de garantie, c'est comme son nom l'indique, c'est une garantie pour les dégradations. C'est pas un mois de loyer en plus. Même si le montant est le même, hein, c'est aujourd'hui un mois de loyer hors charge, c'est interdit. Et le locataire qui se comporte comme ça va évidemment être condamné en justice et à payer le dernier mois de loyer et le cas échéant à payer les dégradations locatives dont le montant dépasserait ce dépôt de garantie.
Oui, mais il faut intenter une action en justice.
Absolument.
Et ça, tout le monde n'a pas forcément envie de le faire. Donc finalement, le locataire, il a beau jeu de ne pas payer le dernier loyer s'il n'a que ce loyer à payer finalement en justice.
Alors, généralement, c'est des choses qui marchent une fois. Les propriétaires se rôdent malheureusement à ce genre de comportement. Et aujourd'hui, il s'agit d'actions qui sont très très légères, très faciles à mettre en œuvre. Les propriétaires peuvent eux-mêmes saisir le tribunal d'instance pour mener cette action en justice. Ce sont des formulaires à remplir. Mais évidemment, si on estime que c'est un peu compliqué, on peut faire appel à son avocat.
Voilà, mais il ne faut pas s'amuser à ce genre de choses. En tout cas, voilà, c'était l'idée et le message de cette émission aujourd'hui dans Igloo, l'état des lieux, comment éviter les pièges. Alors, en 30 secondes, vous pouvez nous résumer ce qu'on vient de se dire aujourd'hui?
En résumé, il faut être précis. À l'entrée, il faut tout noter, il ne faut pas être pressé. Et il faut faire preuve de la même précision, de la même attention à la sortie pour que quand on compare les deux états des lieux, on ait des choses qui soient conformes à la réalité. Et tant que c'est conforme à la réalité et que tout le monde est de bonne foi, il n'y a pas de problème.
Et le mieux, c'est de jamais de vous rencontrer, en fait. Parce que si on ne vous rencontre pas, c'est que tout s'est bien passé.
On peut venir me rencontrer pour se renseigner.
Je plaisante, évidemment.
Mais bien entendu.
Vous êtes tellement sympathique, en plus. Ça serait dommage de s'en priver.
Non, je vous remercie.
Merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Cédric.
Merci.
Et on se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle émission d'Igloo. On en fera d'autres avec vous.
Oui, volontiers.
Si vous le voulez bien. À bientôt.
À bientôt.
C'était Igloo, qu'on retrouve sur topmusique.fr et sur le Facebook Igloo on Air.
Igloo, le Mac de l'habitat sur Top Musique.